la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour à David Storper, bonjour.
Bonjour Sylviane, bonjour à toute l'équipe.
Alors, nous vous avions déjà reçu avec Jean-Christophe Muller à propos de la statue de Bernard Lazare, mais le collectif Histoire et Mémoire a des activités beaucoup plus vastes. Et avec vous, on va essayer dans une première partie de revoir un peu l'histoire de ce collectif, mais nous allons surtout parler des projets. Alors, David, vous êtes un jeune président un peu par les circonstances, hein, c'est-à-dire qu'en 2023, vous avez repris la présidence après le décès de votre père, un décès brutal. Après aussi, Jacques Descalot qui avait donné la présidence à votre père. Et ça vous a semblé évident de reprendre le flambeau, que ce collectif ne s'arrête pas?
Oui, il m'a paru évident de prendre le flambeau, un flambeau que ma génération et les plus jeunes générations doivent reprendre, hein, si on ne veut pas que cette mémoire, cette histoire puisse être oubliée et effacée.
Donc bravo à vous. Alors on parlait de cet environnement familial, je pense qu'avec votre père, vous avez dû déjà en parler, même si que quand on est tout jeune, on peut ne pas être trop intéressé, mais en fait vous avez eu des professeurs d'histoire qui vous ont motivé, puis dans votre famille, il y a eu des exemples.
Alors, j'ai eu des professeurs d'histoire qui m'ont motivé. J'aimais l'histoire.
Bravo.
C'est vrai. Mais également des personnes dans ma famille qui ont décidé aussi de transmettre leur histoire, leur mémoire, à travers des films, notamment un travail qui avait été fait avec Nadine Vicenzi à l'époque au lycée d'Odé et sa classe. Mais également par des livres. Mon grand-père a écrit un livre avant de malheureusement décéder, et ça permet de garder cette mémoire et de la transmettre.
Donc pour vous, ça semblait évident, et on vous a vu dernièrement lors de la projection du film de Mariette Gutters, et la salle 6 était tellement pleine qu'il y a eu une deuxième projection ce dimanche 22 février. Ça prouve tout de même que ça intéresse les personnes. Ce qui se passe autour de la Seconde Guerre mondiale, en amont et puis après, avec cette mémoire, et ça fait partie de vos projets. Alors c'est une jeune association, hein, 2013, mais ça s'est mis un peu en place dans les années 2000 dans la tête des créateurs, puisqu'on commençait vraiment à reconnaître la responsabilité de la France, en fait, ce qui n'était pas évident avant.
Je crois qu'il y a eu une grande période où il n'était pas bon de parler de ça. On se taisait. Mais c'était aussi pour pouvoir se reconstruire, hein, pour les rescapés. Et on a cette période où ça a changé. On a voulu capter déjà des premiers témoignages. Je me rappelle des films de Spielberg, etc., le travail qui avait été fait. Et ensuite, c'est vrai qu'avec la reconnaissance par Jacques Chirac des méfaits de l'État français et des travaux de Serge Klarsfeld et de sa femme Bitte, il y a eu une reconnaissance. Simone Veil aussi, qui a notamment marqué l'histoire de France. Et c'est vrai qu'à Nîmes, ce collectif a commencé ses activités dans les années 2000-2010 autour de personnes qui avaient connu cette histoire. Je pense à M. Perraria, M. Appelbaum et d'autres personnes. Ils étaient dirigés par un monsieur qui s'appelle Xavier Rotea, qui est professeur à la Révolution. Et autour de ça, il y avait Jacques Descalot, un meneur, qui a construit une association, l'association collective Histoire et Mémoire. Et la première action qu'ils avaient menée, c'était celle de mettre une plaque dans la gare de Nîmes Centre.
En bas des escaliers roulants qui montent au quai.
Voilà, pour se rappeler des noms des enfants juifs déportés depuis cette gare. Ouais. Et c'était un grand moment.
J'étais présente, je ne vous connaissais pas encore, mais j'étais présente. Et c'est vrai que Xavier Rotea avait fait tout un travail avec les classes. Il y avait une exposition, il y avait des tableaux, il y avait des sculptures. C'était très impressionnant. Donc c'est là où on peut dire que l'association a vraiment démarré.
Ah, mais c'était son fondement, voilà.
Ouais. Alors, vous m'avez dit aussi que votre grand-père était arrière-grand-père était exilé après la guerre. Et ils sont arrivés par l'exode en 42 en France et à Nîmes. Les hasards de l'histoire, en fait.
Alors
plus,
voilà,
plus d'essence.
C'est vrai que j'ai plusieurs branches qui me rapprochent de cette histoire, la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire liée à l'Europe de l'Est, d'abord, avec mon grand-père, pour venger la mort de son père, s'est engagé même dans l'armée soviétique et a libéré une partie de l'Europe avant, avec ses sœurs, de rejoindre la France. J'ai cette partie de mon histoire qui me rapproche de la Lorraine, de Paris, de l'exode des familles de Paris et cette panne d'essence à Nîmes. voilà,
Ils se sont installés là.
Oui, voilà. Et aussi une autre partie qui était, elle, en Algérie française et qui a eu une autre part d'histoire qui est peut-être moins évoquée, mais de la Seconde Guerre mondiale et qui est tout aussi importante. Oui.
Alors, c'est vrai que votre arrière-grand-père s'appelait Mendel. Il était courtier en pommes de terre et vous continuez donc cette tradition familiale.
Quatre générations.
Bien, bravo à vous. Et donc, un collectif, il faut aller sur le site qui s'appelle collectifhistoiremémoire.org. On voit un peu tout le menu, on pourrait dire, c'est-à-dire vos différentes activités, toujours autour de la Seconde Guerre mondiale. Vous ne pouvez pas tout faire non plus. Hein.
Alors, le collectif Histoire et Mémoire, c'est la transmission de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Mais c'est vrai qu'il s'est intéressé aussi à des faits historiques qui se rapprochent de l'étude de cette période.
Ouais. Alors, je suppose que vous avez bien sûr... Vous avez une cinquantaine d'adhérents, je crois, à peu près.
Voilà.
Donc, il faut faire appel.
Des Nîmois,
adhérer.
Des Gardois. Et des Français. Ouais. On a des gens, même de Strasbourg, qui sont membres et qui suivent nos activités.
Donc, on peut adhérer, bien sûr, à l'association, y travailler, vous soutenir, mais aussi travailler. Il y a des travaux de recherche, il y a des conférences, il y a des...
Oui, on se réunit régulièrement, on a des travaux de recherche, on a des projets à mener, des conférences... Notamment, je me souviens d'une très belle conférence sur le comité de Nîmes qu'on avait faite à la Maison du protestantisme. Et voilà, c'est véritablement une association qui est là pour diffuser toute cette histoire et au plus grand nombre.
Et puis le but, c'est aussi pour les personnes âgées, disons, qui ont vécu cette période ou dont les parents ont vécu cette période, mais il faut vraiment voir avec les jeunes et c'est là le programme scolaire, si on
Donc
pourrait
on
dire.
Oui, on travaille avec les écoles, les professeurs des écoles, collèges, lycées.
On peut vous contacter pour vous proposer, par exemple, de venir.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et c'est toujours des périodes qui intéressent énormément. Et je reprends, je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez des Klarsfeld ou de Simone Veil. Il faut savoir que c'est Olivier Paxton, un Américain, qui avait lancé en fait le débat sur Vichy et les Juifs, et que ça avait beaucoup choqué, parce qu'on disait, de quoi se mêle un Américain? Mais son livre d'Olivier Paxton a vraiment été une sorte de, je dirais, de pavé dans la mare dans ces années-là pour raisonner. Alors, nous allons parler des projets, mais nous ferons peut-être un rappel tout de même, puisque vous avez eu beaucoup de visibilité au moment de l'inauguration du monument de Bernard Lazare. Dreyfusard avant...
Les Dreyfusards.
Avant les Dreyfusards, avant Zola. Et je vous propose qu'on écoute la chanson d'Yves Duteil, qui est un descendant de Dreyfus. Et c'est à peu près la seule chanson, je crois, qui a été faite sur Dreyfus. Donc nous l'écoutons.
Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. suis un peu ce frère qui remue les montagnes. Lorsque tu désespères dans ton île en Guyane, et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine. Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance de tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense. Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie sur un coup de théâtre en s'exposant pour lui. Je suis un peu son fils et c'est moi que l'on traîne au palais d'injustice en l'écoutant à peine. Et quand Paris s'enflamme alors qu'on l'injurie, le coupable pavane à quatre pas d'ici. Lucie, mon corps est à genoux, mais mon âme est debout. Un jour je reviendrai.
Alors sur Radio Alliance Plus, après une présentation du collectif Histoire et Mémoire avec son président David Stopper, nous allons parler maintenant de ce qui vous avait donné tout de même une grande visibilité, c'est-à-dire ce travail sur plusieurs années. Hein, vous avez reçu avec Jean-Christophe Muller au moment où c'était déjà bien en route. Rappelez-nous un peu d'abord l'inauguration, hein, donc en décembre 25, qui est l'aboutissement d'un grand travail. Merci de nous en rappeler un peu les étapes.
Alors tout d'abord, en 2023, nous avions souhaité le 158e anniversaire de Bernard Lazare à l'emplacement de sa statue. Avec, à l'époque, on était 60 à 100 personnes, mais on avait une envie, celle de voir ressurgir cette statue qu'on avait matérialisée par un kakémono. Ce kakémono a permis ensuite de motiver les financeurs, notamment les donateurs. On a fait une souscription nationale qu'on a commencé à Paris, au mémorial de la Shoah, et on a fait le tour de la France avec ce kakémono.
Et oui, il était là quand on a fait l'émission. Vous êtes en photo de
vous. Voilà. Même pendant nos recherches, moi je suis même allé à New York pour aller récupérer des documents d'archives, pour comprendre mieux pourquoi, comment.
Et bon, il faut peut-être rappeler que cette statue avait été détruite par les nazis.
Alors les nazis, voilà, mais plutôt les nazis français, hein, parce que souvent on dit rapidement nazi égale allemand, ce qui n'est pas toujours...
Oui, vous avez raison d'insister.
Voilà, je tiens à le rappeler. Mais ça a été un succès, je crois, pour Nîmes et pour sa visibilité sur une belle action de recherche, une belle action d'histoire, une belle action de mémoire.
Et de sculpture.
Donc... Et de sculpture gardoise en plus, par l'atelier Bouvier, qui est aux Angles et avec qui nous avons eu le plaisir de travailler.
Et donc, cette statue, elle est en place. On rentre par la grille latérale et on la voit tout de suite. Les cérémonies ont été très, très prenantes, hein, je trouve. Hein. Il y avait vraiment une sorte de... Comment dire, hein, de... Je n'arrive pas à trouver mon mot, mais une satisfaction de revoir cette statue en place, même si elle est très datée de son époque. Hein, mais C'est important, c'est la mémoire.
Alors pour le collectif, c'était une victoire. Voilà, une belle victoire. Pour les Nîmois et les Français aussi. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine osmose, des discours d'une portée forte, symbolique, notamment avec la présence d'un descendant de Dreyfus, mais également la présence d'historiens, de présidents de fondations qui venaient de Paris. Et cette union, ou en tout cas cette osmose même politique, puisqu'on avait l'ensemble des responsables politiques de gauche comme de droite présents, et voilà, ça dans cette France qu'on dit divisée, c'est beau de trouver
des moments d'union. Alors vous travaillez, on va passer au projet, vous travaillez aussi en étroite collaboration avec le Camp des Mille, hein, on a vu ça avec le film de Mariette Guters, hein, Le Diable en Garrigue. Il faut lire le livre de la Lionne, je ne sais jamais prononcer ça,
Fönschwanger,
Le Diable en France. Et je vous conseille vraiment d'acheter ce livre en livre de poche, parce que c'est vraiment toute une époque. Ce camp des Garrigues a existé très peu de temps, hein, qui était non pas un camp de concentration, mais un camp de transit, on pourrait dire. Et donc, vous travaillez avec le camp des Mille, bien évidemment. Je conseille à tout le monde d'aller visiter le camp des Mille, si ce n'est pas déjà fait.
Alors, pourquoi le camp des Mille ? Parce que c'est une véritable volonté de travailler avec le camp des Mille, parce qu'il y a une histoire qui est commune avec la ville de Nîmes. Nîmes étant un nœud ferroviaire important pendant la Seconde Guerre mondiale. Et de nombreuses personnes ont transité entre Nîmes et le camp des Mille, qui a été parfois, un réservoir, un camp d'internement, mais aussi un camp qui a permis aussi la déportation dans les camps d'Europe de l'Est, notamment Auschwitz.
Alors, ça nous permet, justement, en parlant de la Seconde Guerre mondiale, de parler de la résistance, de reparler de ce film, de se reparler de Camp des Garrigues. Donc, on va parler de trois projets, donc en lien un peu avec ce film que vous avez soutenu, c'est-à-dire une aire mémoriale, puisqu'on ne peut pas aller sur l'emplacement du Camp des Garrigues, puisque c'est un terrain militaire. Et donc, vous avez cette idée, voilà, de faire une plaque, une aire mémorielle sur la route du Zex, l'intersection vers Poux, en fait.
C'est ça. Longtemps, l'idée était de construire quelque chose à l'emplacement même de cet ancien camp de tente, qui est notamment matérialisé par un bâtiment en pierre, qui était le bâtiment administratif du camp. La volonté, c'est de... Nous, on a une volonté, c'est celle de...
Rendre accessible.
Accessible et visible.
Donc, un terrain militaire, non.
Dans un terrain militaire, si c'est pour qu'on ait l'autorisation un ou deux jours par an de se rendre sur ce camp, c'est pas tout à fait ce qu'on souhaitait. Et c'est pourquoi on a plutôt réfléchi avec le conseil départemental à faire une sorte d'aire ou un lieu où... Ce qui permet notamment à des automobilistes et donc les quarts d'école de venir et de transmettre cette histoire, cette mémoire. Après, voilà, des visites peuvent être éventuellement mises en place, notamment en lien avec les autorités militaires qui ont le camp des Garrigues. Mais ça, c'est quelque chose de très occasionnel et on ne cherche pas à créer ça. Par contre, ce qu'on cherche, c'est à créer véritablement des lieux comme celui-ci, de tourisme mémoriel, et notamment qui serait lié à un lieu central qui pourrait avoir lieu sous les arches de la gare SNCF de Nîmes Centre.
Voilà, votre deuxième grand projet.
Qui est toujours un nœud ferroviaire pour tout le département et qui permettrait d'irriguer facilement les écoles du département, notamment du Gros-du-Roi jusqu'à Alès, voire jusqu'aux hameaux les plus isolés du Gard.
Les musées de la Résistance, il y en a beaucoup. Voilà. Hein, donc pourquoi ne pas envisager un musée de la Résistance
et de la déportation.
Et de la déportation.
Il faudrait expliquer que dans le département du Gard, il y a eu des belles histoires comme il y a eu des mauvaises histoires. Et je crois qu'il faut voir la chose dans son ensemble et pas seulement s'appuyer sur certaines... voilà, sur certains mythes qui effacent une partie de
Bien
l'histoire.
Sûr. Être objectif, montrer les voilà. deux, les différents camps, hein, vraiment travailler sur la réalité de
la réalité,
des faits.
Une réalité qui n'est pas seulement locale, mais qui peut être aussi internationale, parce que quand vous voyez qu'il y avait 2 à 3000 personnes qui venaient notamment de pays comme l'Allemagne, l'Autriche, et tous ces pays qui de personnes qui finalement pour la plupart se sont exilés notamment aux États-Unis en Australie ou dans d'autres pays, ben c'est intéressant s'ils reviennent dans la région de pouvoir leur expliquer et de former des gens de notre région, de notre ville, à leur expliquer, notamment des jeunes, par exemple, documentaristes qui doivent pouvoir leur dire, voilà, votre famille s'appelait telle, elle est passée par tel lieu et on peut aller sur ce lieu.
Bien
c'est
sûr.
Ce qu'on avait fait notamment au Masboulbon aussi, également, pour un camp de nomades, camp de nomades de femmes. C'est exactement dans cette lignée-là.
Mmh. Alors, il faudrait avoir les arches. Une arche, deux arches, trois arches.
Aujourd'hui, il y a une stèle derrière la gare qui
ouais.
est juste notamment devant un bâtiment toujours de la SNCF qui est l'ancien Canto Cigalo où ont été enfermés les juifs étrangers avant d'être expédiés sur les différents camps d'internement, voire de déportation. Et ça serait tout à fait intelligent que ça soit à cet emplacement.
Voilà.
Autre chose, la gare et les arches ont permis également aux nazis allemands, cette fois-ci, vous savez, de ramener les corps de pendre les fameux pendus de Nîmes,
ouais.
Qu'on va commémorer la semaine prochaine, qui ont marqué vraiment dans sa chair, les Nîmois. Quoi.
C'était sur le viaduc
C'était. Il y a eu plusieurs endroits.
Il y a eu plusieurs endroits.
Il y a eu notamment Route Beaucaire. Il y a eu où il y a la pyramide là sur le Jean Jaurès. Il y a eu aussi Route d'Alès, je crois.
D'accord.
En fait, à tous les endroits
les
de la ville. Oui, enfin toutes
Très
les
visible.
Entrées, les ah, entrées de la ouais. ville pour rappeler que les puissances étaient à l'époque les Allemands.
Donc, vous êtes en pourparlers hein, depuis 2023, en espérant que ce projet prenne forme. Il faut insister, il faut... Et puis, en ce moment, il y a une très belle exposition aux archives départementales sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'on imagine très bien hein, un très beau musée à cet endroit. Donc, continuez de travailler.
Effectivement, c'est continuer de travailler, mais également, il faut... faire prendre conscience également au personnel politique. Hein. Là, je parle on est en élection municipale, mais pas que.
De l'importance, l'intérêt.
Il faut prendre conscience de l'importance touristique, mémorielle, et en termes de transmission des valeurs que sur lequel repose ce type de projet.
Bien sûr.
Qui... même en termes d'éducation à nos futures générations, à des valeurs humaines.
Oui, parce qu'une journée de commémoration, c'est très bien, mais ce qui est important, c'est sur l'année. Et puis, c'est vrai, dans personnel politique, par souvent de retombées économiques, que ça peut avoir justement des retombées économiques que de faire un musée de la Résistance. Moi, j'ai beaucoup fait de voyages scolaires, touristiques avec des élèves, et c'est vrai que c'est toujours très, très impressionnant. Et là, ça marque, hein, ça devient vraiment réel, ça devient quelque chose qui vous prend aux tripes, et c'est ça qu'il faut vraiment faire. Alors, votre troisième projet, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure avec le comité de Nîmes. quand vous avez parlé de la conférence à la Maison du Protestantisme, et vous voudriez une plaque sur le foyer Albaric. Alors, nos studios sont dans un des foyers Albaric, la rue Claude Brousson, mais vous pensez plutôt à celui de la rue Jean Reboul.
Je parle de la rue Jean Reboul parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment au début de l'occupation, mais c'était Vichy qui était en charge de la ville de Nîmes, et il s'appuyait sur un comité qui s'appelait le comité de Nîmes. Et ce comité, c'était de nombreuses associations qui assistaient les personnes vulnérables dans les différents camps de la région d'internement. Mais en sous-marin, ces associations ont permis notamment le sauvetage et
les évasions.
Les évasions et tout les ça transferts. Dans toute la région et notamment dans des lieux qui sont très connus.
Dans les Cévennes, je suppose.
Voilà, et notamment dans les Cévennes, dans plusieurs lieux. Et c'est une très belle histoire qu'il faut raconter. Qu'il faut raconter. Parce qu'en France, on n'entend jamais tellement parler de cette part d'histoire.
Il y a eu des progrès tout de même.
Il y a eu des progrès, mais le comité
c'est
de.
Toujours
non, mais
à
moi,
faire.
Ce que j'ai envie d'entendre, c'est Nîmes. Voilà. Comité de Nîmes. Voilà.
Ouais,
parce
ouais.
que quand on nous parle. Bon, ce qu'il y a. Même quand on nous parle du sauvetage de Toulouse, de Bayonne, de si.
Le Chambon-sur-Lignon, on en a parlé.
Le Chambon-sur-Lignon était en lien avec le comité de Nîmes.
De Nîmes. Oui, c'est pour ça que je cite Chambon-sur-Lignon.
Voilà, et toutes les associations, que ce soit les associations protestantes, catholiques, juives, athées, mais également des athées, ont aidé à sauver des personnes. Alors, il est vrai que longtemps, c'était sur l'aspect formel, c'est-à-dire qu'il y avait même des communications avec Vichy pour essayer d'aider à sauver. Mais il y avait cette volonté humaniste d'aider son prochain, et je crois que c'est important dans une ville.
Commémorer, de rendre hommage, et de le rendre visible, et puis de faire valeur pour l'exemple.
Dans une ville, dans cette lignée, des Rabault Saint-Étienne, des Bernard Lazare, et des Suzanne Crémieux. On a des grands personnages, et il faut les mettre en valeur, et des grandes organisations qui ont œuvré.
Merci beaucoup David pour cette présentation, cette représentation du collectif Histoire et Mémoire locale. On a bien compris que ça vous tient à cœur, et je pense que c'est si chacun justement fait sa part un petit peu locale, et bien ça fera une grande mémoire collective, puisque vous vous appelez collectif Histoire et Mémoire.
Et merci visible pas seulement au local mais au national.
Merci.